Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
La médecine officielle est-elle en train de s'ouvrir aux guérisseurs? Ils sont rebouteux, magnétiseurs, coupeurs de feu. Ils sont capables de soulager des patients. Ils sont loin d'être reconnus officiellement. La science n'explique pas leurs résultats. Mais pourtant, une petite porte semble parfois ouverte dans certains hôpitaux. C'est le dossier cet après-midi de la tête au carré avec toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé, l'attaque. Christophe Limerac, donc vous êtes notre guérisseur aujourd'hui dans l'émission. Oui. Rebouteux, magnétiseur, réflexologue dans les Yvelines. Isabelle Nègre, vous êtes médecin anesthésiste réanimateur, chef de service du centre d'évaluation et de traitement de la douleur au CHU de Bicêtre. Oui. Et puis Isabelle Célestin Lhôpitaux, vous êtes psychologue et psychothérapeute également au centre antidouleur du CHU Bicêtre et vous êtes directrice de l'Institut français des pratiques psychocorporelles. Vous avez publié « Changer par la thérapie » aux éditions Duno. Et puis nous serons tout à l'heure en ligne avec Gérard Osterman qui lui est professeur de thérapeutique, médecin interniste et psychothérapeute analyste à Bordeaux. Christophe Limerac, il y a beaucoup de messages des auditeurs qui arrivent, beaucoup de témoignages. Oui. Ça ne vous surprend pas, j'imagine?
Non, pas
parce
réellement.
Parce que les personnes sont nombreuses à faire appel à vos services.
Voilà, pour moi, c'est pas vraiment une surprise puisque c'est mon quotidien. Et c'est vrai que les gens viennent nous consulter une fois après avoir fait le parcours officiel de la médecine et souvent en dernier recours.
Ouais.
Alors, ils nous mettent la barre un petit peu haute avec un petit peu de pression, nous dire bon, voilà, maintenant c'est le dernier recours, je compte sur vous. Dans l'essentiel des cas, on arrive à compenser le manque des résultats qu'il y a eu précédemment.
Mmh.
Et c'est ce qui fait qu'on a quand même une sacrée cote au niveau du public. Merci ouais. beaucoup.
J'observe vos mains tout en vous parlant et je me demande ce qu'elles ont de si spécial.
C'est une très bonne question. Mes mains guérissent, ou du moins aident à guérir, puisque le guérisseur et magnétiseur, c'est-à-dire qu'il est capable de dégager un fluide, et ce fluide est capable de d'aider soit à couper le feu, soit donc dissiper les symptômes de la brûlure, ou au moins aider le corps à se régénérer et à faire passer certains troubles.
Donc ça, c'est voilà. vraiment la définition de votre travail.
Ça, c'est la définition, voilà. Le guérisseur, c'est quelqu'un qui est capable de guérir tout être vivant. Alors voilà. Je dis bien tout être vivant, et c'est là que c'est intéressant aussi.
Même les animaux.
Ça peut être des animaux, ça peut être aussi de la plante. On peut agir, une plante c'est vivant, on peut aussi agir sur une plante qui est...
Ah bon ouais. Ça vous est arrivé, vous, personnellement?
Oui, sur des plantes chez moi qui n'étaient pas en forme.
Ah bon? Et qu'est-ce que vous avez fait? Racontez-nous.
J'ai posé ma main autour et puis ça allait mieux.
Ah bon?
Mais, moi j'allais mieux, évidemment, ouais. mais ma plante ne mourait pas.
Quand on a un bouquet de fleurs un peu fané, on peut aller vous voir et tout d'un coup, plouf, il y a une espèce de miracle qui se produit.
Faire la concurrence Interflora, je vais avoir des problèmes.
Bon, en tout cas, vous êtes dépourvu de diplôme médical. Ça
tout
aussi,
fait,
hein, c'est
ouais,
ce qui fait
ouais.
évidemment la particularité des personnes qui guérissent comme vous et qui soulagent les gens. Isabelle Célestin Lhôpitaux, est-ce que finalement nos guérisseurs seraient nos chamans ou sorciers occidentaux?
Oui, complètement. Parce que si on fait un petit tour du monde, on voit que dans chaque culture, il va y avoir une médecine officielle et des praticiens issus des médecines traditionnelles anciennes. Alors en Sibérie, il y a le mot de chaman, c'est le mot tungus. Chez nous en Occident, dans toutes les campagnes européennes et dans les villes aussi, on va avoir des guérisseurs ou des rebouteux, des barreurs de feu qui continuent à exercer. Puis comme ça vient d'être dit, en complémentarité souvent de la médecine officielle.
Oui. Sauf que la façon dont on les accepte dans nos cultures est très différente des pays ou des continents que vous avez cités à l'instant.
Pas tant que ça au niveau de la population. C'est-à-dire qu'on voit que partout dans le monde, il y a quelque chose de logique. Quand on souffre, quand on a mal, si on se fait une fracture ouverte, c'est logique d'aller tout de suite à l'hôpital. Si on est suivi à l'hôpital et qu'on a une douleur chronique et que ça ne passe pas, spontanément, les patients vont aller voir d'autres praticiens. Et ça, partout dans le monde. Donc la population cherche et il y a un parcours de soins qui est assez logique. Là où c'est important, c'est d'arriver à rationaliser quand même ce parcours de soins un petit peu plus quand les patients ne sont sont un peu perdus par rapport à leur symptomatologie.
Ouais. Christophe Limerac, ça fait combien de temps que vous pratiquez alors?
Plus d'une dizaine d'années.
Ouais, voilà. Comment est-ce que vous avez compris que vous aviez ces capacités particulières?
Progressivement, on sent que bon, déjà il y a un certain attrait, un certain intérêt pour aller soulager l'autre.
Ouais.
Et donc au début, on ne sait pas comment on pose ses mains, quelqu'un qui a mal, comme la maman qui va poser la main sur le bobo de son bébé, quoi, ou son enfant qui vient de tomber, et elle se rend compte que l'enfant est soulagé. Ben, c'est un petit peu la même chose pour l'apprenti guérisseur, puisqu'au début on est apprenti, on pose ses mains, et on se rend compte que la personne est soulagée, et puis cette personne va en parler à une autre qui va dire tiens, tu peux pas faire quelque chose pour moi, on essaye, et progressivement on se rend compte qu'il y a quand même un flux qui se met en route,
hein.
Et que les gens sont soulagés.
Ouais. Ça se transmet par un enseignement justement, ou pas?
Le magnétisme, tout le monde en a. C'est moi, à chaque fois, je fais le parallèle avec la cuisine. Tout le monde peut apprendre à cuisiner. Par contre, on ne sera pas tous des Bocuse. Il y en a qui seront à peine capables de faire cuire un œuf malgré des leçons de cuisine. Il y en a qui très vite arriveront à bien cuisiner. Au magnétisme, c'est pareil. Il y en a qui ont un certain potentiel, ce que certains appellent le don. Et donc, avec un minimum d'enseignement, ils arriveront à guérir les gens. Et il y en a d'autres, ben, ils feront juste le petit bobo du bébé.
Isabelle Nègre, à quel moment vous êtes intéressée justement à ce type de pratique? Vous qui êtes médecin anesthésiste réanimateur, donc, hein, je le disais tout à l'heure, au sein d'un CHU à Bicêtre.
Alors, c'est dès que je me suis occupée des patients douloureux chroniques, puisque en fait la douleur chronique est vraiment une leçon d'humilité pour les médecins, puisque très souvent il y a des échecs dans les traitements. Donc la vision organiciste, je vise un organe, je donne la molécule qu'il faut pour le récepteur qu'il faut. On voit bien qu'elle est ce qui est pratique en anesthésie, c'est-à-dire je dois donner le bon produit pour que le patient dorme bien et se réveille. Là on voit que c'est insuffisant. Et en même temps, on parle beaucoup dans la douleur de la relation avec la personne, entre le médecin et le patient. Et donc, il faut bien discuter. Et on se rend compte très rapidement que les patients nous cachent des choses. Et quand il y a la relation de confiance, alors ils nous disent, on voit qu'un patient sur deux a consulté ses guérisseurs ou d'autres
médecins. Et vous en tenez compte dans le parcours de soins du patient ou pas?
C'est-à-dire que
parce que traditionnellement, justement, le médecin ne veut surtout pas en entendre parler.
Oui, je me rappelle d'un grand patron quand j'étais étudiante qui disait, je ne connais pas, ça n'existe pas. Or, ça existe, comme le disait Isabelle Célestin tout à l'heure, c'est la réalité. Alors, dans la relation, pour bien accompagner un patient, il faut tenir compte de sa réalité et l'accompagner avec ça.
Isabelle Célestin, l'hôpital, ça c'est absolument fondamental pour vous justement?
Ah oui, ça me paraît vraiment essentiel.
C'est de ne pas se mettre la tête sous le sable et puis de tenir compte de ce qui se passe aussi dans la vie du patient en dehors de l'hôpital ou du cabinet du médecin.
Exactement, parce que la douleur, elle ne se réduit pas de toute façon à la perception, à la sensation. La douleur, elle va modifier le lien qu'une personne a à son propre corps. On sait très bien, on a tous eu mal à un moment ou à un autre de nos vies. Si on a une bonne douleur de dent, le monde se rétrécit à la carie, à la bonne douleur de dent. Ça change notre rapport à nous-mêmes, notre rapport aux autres et au monde qui nous entoure. Donc ça va être extrêmement précieux que des médecins puissent entendre ce discours-là, déjà pour pouvoir mieux guider aussi certains patients. Parce qu'il y a aussi un cadre, il y a des limites à cette collaboration, mais aussi parce que on travaille mieux si on a une idée des représentations du patient. Si le patient se sent apaisé et guidé par rapport à ce qu'il imagine de son parcours de soins, cet apaisement-là va avoir un effet.
Christophe Limérac.
Oui, au niveau de la médecine conventionnelle, l'homme a été divisé à l'infiniment petit et on traite l'infiniment petit sans prendre en considération ce qu'il y a autour. Et nous, guérisseurs, on prend l'ensemble. On prend la globalité. Oui, effectivement, l'endroit qui est lésé nous intéresse, mais on va traiter l'ensemble de la personne. Et je pense que ces deux attitudes peuvent être très complémentaires, quoi. Oui. Nous, traiter le patient dans sa globalité et la médecine conventionnelle faire sa spécialité que je ne connais pas. Mais l'ensemble pourrait amener de super résultats. Ouais.
Alors justement, dans le parcours aussi, vous, d'un patient, comment vous prenez en compte le médecin officiel?
Déjà d'entrée, en tant que guérisseur, nous, zéro diagnostic. Ça, c'est la règle de base. Donc, ils sont allés voir le médecin, ils arrivent avec un diagnostic, ils me disent, voilà, j'ai tel et tel trouble. Et par rapport à ce que le médecin a fait, moi, je me greffe là-dessus et je fais mon savoir à moi. Mm-hmm. En plus de ce qui a été fait, je vais surtout pas supprimer ce qui a déjà été mis en place, parce que déjà, j'y connais rien, donc j'ai aucun droit là-dessus. Mais compléter la thérapie qui a déjà été mise en place.
Et parfois, vous refusez de prendre en charge une personne en lui suggérant d'aller voir absolument le médecin.
Ah oui, oui.
Si les personnes viennent nous voir directement c'est arrivé, pour un soin particulier.
Il y a des gens qui pensent que je vais claquer des doigts ou avoir des scanners à la place des yeux qui vont dire « Ok, vous avez ça, c'est bon, rentrez chez vous. » Non, la sécurité de la personne veut que j'envoie vers quelqu'un de plus qualifié, une imagerie ou quoi que ce soit, et on confirme avec un diagnostic et moi, je peux travailler dessus.
Benoît nous dit ceci, je suis artisan et magnétiseur depuis 20 ans. Il y a bien sûr l'effet placebo, mais comment expliquer que ce que je fais agit très bien, mieux sur les enfants et encore plus sur les nourrissons, sur les animaux? Je pense que les magnétiseurs n'ont pas besoin de la reconnaissance de la science, mais je pense que nous devrions travailler avec la science médicale, partager notre savoir pour le bien de tous.
Bien sûr que c'est important de partager les savoirs, parce qu'on voit bien que le savoir du médecin et le savoir du guérisseur est radicalement différent. Mais malgré cette différence, il y a des points communs. Accompagner quelqu'un dans son parcours de soins pour que ça se passe mieux. Mmh. Et c'est autour des questions communes qu'il y a une réflexion à avoir. Parce qu'on entend bien que pour être médecin, il y a une somme de connaissances et d'expériences à avoir pour être médecin, pour être soignant. Chez le guérisseur, on entend que c'est autre chose, c'est d'un autre ordre. Il y a vraiment un travail très intuitif qui amène à une relation, une observation globale, ça vient d'être dit, très fine. Et c'est certainement dans la discussion entre la science la plus rigoureuse et cette réflexion sur l'intuition qu'il y a des choses à créer, toujours en complémentarité, à la fois cliniquement et aussi sur le plan de la recherche.
Isabelle Nègre, justement, en tant que médecin, donc, je le rappelle à chaque fois parce que c'est important, il y a des études scientifiques, justement, qui étudient ces questions ou pas du tout ?
Il y en a très peu. Pour les guérisseurs...
Ça va vous intéresser, vous, pourtant, de dire
sûr,
des choses à ce sujet-là ?
Pour les guérisseurs et magiciens, il y en a très peu. Et le problème, c'est un problème conceptuel entre la médecine et les guérisseurs. C'est-à-dire que la médecine a été créée pour les médecins, c'est une science, ça s'apprend, et il suffit de faire les études et on sera médecin, cardiologue, anesthésiste, etc. Alors que là, il s'agit d'une capacité individuelle d'une personne qui va avoir un don particulier pour une certaine pathologie, puisque souvent les guérisseurs sont axés sur une pathologie. C'est donc, il y a une difficulté extrême d'évaluer ces pratiques puisqu'elles vont à l'encontre de nos méthodes d'évaluation qui doivent avoir un certain qui ne doivent pas dépendre du thérapeute. Donc voilà, ça c'est vraiment et donc là il y a une vraie réflexion à mener à ce propos.
On en reparle dans un instant avec vous et beaucoup de messages, énormément de témoignages sur le site de la Tête au Carré. Vous poursuivez bien sûr pour nous rejoindre, c'est franceinter.fr et le mot clé l'attaque. Celle d'Alain Souchon et de Laurent Voulzy à l'instant dans notre Tête au Carré.
Comment ça va ? Bon, ça va. Ça va même plutôt bien en fait.
Est-ce que ça veut dire que la chimio marche ?
Si on reste réaliste, ça peut seulement signifier que les antiémétiques lui conviennent. La vérité, c'est que tant que Walt n'aura pas terminé ses séances de chimio et passé un nouveau scanner, nous ne serons sûrs de rien.
Est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus ? Je me posais des questions sur... les traitements alternatifs, je pensais à la médecine orientale.
Je ne peux rien vous dire sur leur efficacité. Mais tant que ça ne risque pas d'affecter son traitement, tout ce qui peut aider mon patient à se sentir mieux, tout ce qui peut le réconforter, ça marche pour moi.
Alors, vous voulez dire que c'est psychologique ? Que ça ne fera pas de vraie différence ?
Se sentir mieux dans sa peau peut faire une énorme différence. Mais il faut rester réaliste et ne pas s'attendre à des miracles.
Extrait de la série Breaking Bad. Alors justement, le pouvoir des guérisseurs, est-ce que c'est totalement psychologique ? Qu'en dit la médecine officielle ? On en parle cet après-midi avec mes invités, puis avec Gérard Osterman qui vient de nous rejoindre par téléphone. Bonjour à vous.
Oui, bonjour Mathieu Vidard.
Vous êtes médecin interniste psychothérapeute à Bordeaux et vous êtes très intéressé justement par les interactions entre le corps et le psychisme et le travail des guérisseurs. Est-ce que vous avez des réponses justement sur le fonctionnement de ces pratiques ?
Alors des réponses, on n'a pas de réponse claire sur un plan scientifique, j'ai pas pu écouter le début de l'émission, mais j'imagine que ça a déjà été dit. Cela étant un traitement irrationnel, parce que pour l'instant on est dans l'irrationnel, un peu selon la mesure de la science, pour moi c'est pas forcément un traitement déraisonnable selon la mesure de la personne. Ce que je veux dire par là, c'est la chose suivante, c'est qu'on peut se demander ce qu'il faut préférer. Est-ce qu'il faut préférer une thérapeutique dont l'efficacité est démontrée mais faible, ou une thérapeutique dont l'efficacité est indémontrée mais forte ? Je pense en particulier effectivement aux barreurs de feu, à certaines situations que tout le monde connaît maintenant, où l'efficacité paraît pour l'instant indémontrée dans ses mécanismes, mais suffisamment puissante, comme en peuvent en témoigner beaucoup de personnes. Et si vous m'autorisez, je vais vous raconter une histoire personnelle. Pourquoi ? Parce que c'est souvent des expériences que l'on fait qui nous ouvrent un peu les portes de la conscience, ou du moins les portes de la perception. On est en 1983. À l'époque, je m'intéresse un peu à ces phénomènes-là, sans avoir le prurit du paranormal, pas du tout, mais simplement à des gens qui fonctionnaient à l'époque dans un hôpital, et je trouvais que cette personne avait un sens diagnostique et une fonction thérapeutique qui m'étonnait un peu. Bon, cette personne s'appelle Claudine, je la nommerai pas. Je vais la voir, on est en 1983. À l'époque, je venais d'avoir un accident et j'avais mal au genou gauche. Et en fait, je venais pour parler avec elle de son approche, de sa technique, si j'ose dire. Et puis, cette femme passe derrière moi et elle dit « Mais vous avez mal au genou ». Alors je me suis dit « Bon, elle m'a vu boitiller un peu, c'est pas très compliqué, et ça mérite pas, ça donne pas un talent particulier ». Et elle me dit en même temps, Écoutez, c'est comme s'il y avait de la confiture de mur dans votre genou. Alors là, je dis, là, on est vraiment dans le déraisonnable. C'est un peu n'importe quoi, c'est ce que je me dis en moi-même. Et puis, l'affaire s'en tient là, puisque il n'y avait aucune demande de soulagement de ma part. J'étais pas venu là pour ça. Sauf que 3 mois après, je continue d'avoir mal au genou un peu, je vois des collègues, je prends quelques anti-inflammatoires, quelques antalgiques. Et puis 3 mois après, alors que je faisais une communication, je me rappelle, Porte de Versailles, sur le champ de l'hypertension, à la peau, je me dis, tiens, je vais aller me détendre un peu. Et je marche dans une rue, et mon genou se trouve mais complètement bloqué, c'est-à-dire je peux plus avancer. Donc, ça évoque une histoire méniscale, enfin bon, peu importe, je suis complètement bloqué. Et j'hésite un peu à... Je sais plus quoi faire, je fais quelques pas et je vois cabinet de rhumatologie. Je sonne, par un heureux hasard, le rhumatologue était disponible, je me présente, il me dit « Entrez mon cher confrère, je m'occupe de vous », il regarde, il me fait une radio, il me dit « Vous savez, à l'examen, il y a une petite collection dans votre genou là, donc ce que je vous propose pour vous soulager, c'est de vous faire une ponction ». Écoutez, si ça peut me soulager, n'hésitez pas. Et puis, il me fait une ponction, d'ailleurs sans anesthésie locale.
Allez à la chute de l'histoire, Gérard Osterman. Allez à la chute de l'histoire, parce qu'on a peu de temps, là.
Et là, à ce moment-là, il fait la ponction et il dit, c'est curieux, c'est de la confiture de mur. On dirait de la confiture de mur. Et là, c'est quand même étonnant. Je lui dis, mais est-ce que vous avez déjà dit ça à un patient? Il me dit, jamais. Donc, comment c'est possible? J'ai aucune explication. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des personnes qui captent des choses et qui s'avèrent exactes. Là, en l'occurrence, je dois dire que c'est une chose qui m'a beaucoup troublé. La question que vous posiez, c'était par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'effet placebo. J'imagine que ça.
Mais oui, comment ça fonctionne, oui, c'est ça.
Ce que je crois, c'est que l'effet placebo est un mot valise qui ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que pour moi, dans l'effet placebo, il faudrait beaucoup plus parler d'effet relation, si j'ose dire, ou d'effet contexte. C'est-à-dire que c'est, à mon sens, l'étude de cette relation, justement, qui se crée avec certaines personnes, avec la mémoire, avec les émotions, je dirais, avec le plaisir, avec peut-être les croyances d'attente, avec la récompense, avec l'empathie, tout un ensemble de choses qui vont faire à un moment qu'on va mieux appréhender les processus psychiques de guérison.
Dax sur Twitter demande si la conviction du patient est nécessaire, justement, dans l'acte de guérison. Christophe Limirac, je peux vous poser la question aussi.
C'est un plus. C'est un plus. Évidemment, quelqu'un qui est convaincu par ce qu'il va aller faire, c'est toujours mieux.
Mon sentiment.
Vous êtes invité dans un restaurant, vous n'avez pas du tout envie d'y aller, vous allez toujours trouver quelque chose à redire. Et vous sortirez de là en disant, c'était dégueulasse, excusez-moi l'expression. Alors que si vous êtes super motivé pour y aller, vous trouverez tout bien. Chez un guérisseur, c'est la même chose.
Et alors justement, Gérard Osterman, qu'est-ce qui se joue chez le guérisseur? Comment il parvient justement à faire quelque chose, à soulager, voire parfois à guérir la personne?
Alors je ne sais pas si c'est le guérisseur qui guérit. Je méfierais de ça. J'ai plutôt le sentiment que tout se passe, si vous voulez, à l'intérieur de la personne. Et nul autre ne peut l'occuper, cette place. C'est en lui que j'ai justement cet obscur, pour l'instant, parce que c'est obscur, du processus même de guérison. Simplement, il y a des déclencheurs. C'est pas parce que le guérisseur, enfin, peut-être je vais choquer le guérisseur qui est là, mais c'est pas parce qu'il a un pouvoir. C'est pas de l'ordre du pouvoir. C'est de l'ordre, peut-être, d'une disponibilité de fenêtre de perception qu'il a, qui permet à un moment, dans la relation, j'insiste bien, dans la relation, qu'un processus se mette à l'œuvre, et au fond, c'est un processus d'auto-guérison.
Je ne suis pas choqué, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Bon, alors c'est bien si vous êtes d'accord. Isabelle Nègre, vous avez été vous aussi témoin hein, de scènes comme celle-là.
Oui, c'était l'été dernier. Une de mes amies s'est gravement brûlée sur une plaque chauffante au niveau de la main. Elle m'a tout de suite, il était très tard le soir, envoyé une photo pour que je puisse voir les dégâts. J'ai donné quelques conseils et j'étais très inquiète en me demandant si le lendemain, il ne faudrait pas l'hospitaliser puisque les brûlures sur les mains sont très graves. Elle est allée à la pharmacie le lendemain, donc c'était dans un petit village du sud-ouest, et le pharmacien lui a donné les produits, a demandé à voir sa plaie et lui a dit « Oh là là, vous êtes sacrément brûlée ». Il a dit « Mais avant de mettre les produits, allez voir Madame Intel ». Elle est allée voir Madame Intel. Mon amie est tout à fait cartésienne et a suivi et n'avait... Alors, pour le coup, pas de croyance avérée, ou en tout cas avouée. Et là, j'ai montré une photo qui est dans le studio. 3 jours après, la main était normale. Et à partir de l'intervention de cette personne, elle n'a plus pris d'antalgique du tout. Et donc, alors on peut évidemment dire qu'il s'agit de suggestions, dire que c'est un effet placebo. Mais il faut un peu d'humilité. Et je trouve que c'est un peu facile d'utiliser le phénomène de suggestion. Il faut un peu d'humilité. L'hypnose faisait rire il y a 20 ans. Maintenant, on a montré qu'il y avait au niveau cérébral de profondes modifications. La méditation de la même façon. Et donc, peut-être que dans quelques années ou quelques décennies, nous mettrons en évidence quelque chose qui se rapprochera de la notion d'énergie dont on parle tant chez les guérisseurs.
Isabelle Célestin, l'hôpital. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'études scientifiques, on le disait, parce qu'il n'y a pas de financement, tout simplement.
Alors, ça a bougé.
C'est pas assez lucratif, ce type de pratique.
Ça a bougé malgré tout. C'est-à-dire que, comme le disait le docteur Ostermann, il y a une efficacité. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement encore actuellement. Mmh. Mais il y a une efficacité. Donc ça a poussé quand même l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, à établir une stratégie mondiale de recherche sur, alors de façon plus générale, sur les médecines traditionnelles et sur les médecines intégratives ou alternatives et complémentaires. Et dans ces pratiques, il y a les pratiques énergétiques. Et aux États-Unis, il y a un groupe, le NCCAM, qui dépend d'une branche du ministère de la Santé, qui promeut des recherches pour évaluer l'efficacité. Ça permet aux patients et ça permet aux soignants aussi d'y voir un petit peu plus clair, de tenter de comprendre et de voir ce qui est de l'ordre d'une pratique complémentaire ou alors d'écarter aussi les pratiques qui sont complètement à la marge.
Alors, je peux vous dire qu'on a énormément de témoignages qui recoupent ce que vous nous avez apporté à l'instant. Donc, je vous invite à les découvrir, à les lire sur le site de la Tête au Carré parce que je pourrais vraiment vous en faire part pendant des heures. Beaucoup de personnes qui ont été vraiment les témoins, qui ont fait appel justement à assez pratiques et qui en sont plutôt satisfaites apparemment. Donc vous allez sur franceinter.fr. Sébastien demande ceci, quand on possède un tel talent, est-ce qu'on se sent un devoir de l'exercer? Est-ce une vocation ou un métier comme un autre? Et est-ce qu'on est évalué par ses pairs, Christophe Limerac?
C'est une vocation et il y a une forme d'évaluation par ses pairs, oui, tout à fait.
Ouais.
C'est-à-dire que toutes les personnes que j'ai rencontrées pour la transmission du savoir, il y a toujours eu à la fin une forme de validation tout discret, tout en douceur. Mmh. Tiens, vas-y, montre-moi comment tu fais ça, que je jette un petit œil. Et puis à la fin, on avait soit l'approbation, soit le coup de bâton. Voilà, c'était un petit peu ça. Donc oui, effectivement.
Et Yann sur Twitter demande, est-ce que les magnétiseurs font sonner les portiques des aéroports? Est-ce qu'ils débarquent avec des appareils IRM? Alors, votre réponse, s'il vous plaît.
J'ai sonné en rentrant.
C'est vrai?
Tout à fait, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais j'ai sonné en rentrant.
Ah bah écoutez, on va repartir ensemble parce que je veux voir ça. Allez, on se retrouve dans un instant. Dream in my head, Yael Naïm sur France Inter. Les guérisseurs et la médecine, Christophe Limerac est guérisseur, il est notre invité, médecin anesthésiste Isabelle Nègre est également avec nous, avec Isabelle Célestin, l'hôpital qui est psychologue, et Gérard Ostermann, professeur de thérapeutique avec nous au bout du fil. Isabelle Nègre, justement, parce qu'on parlait des différentes pratiques dans ce domaine, dans le domaine des coupeurs de feu, c'est là qu'on a les résultats les plus spectaculaires peut-être?
Bien sûr, parce qu'on connaît bien les brûlures, leur profondeur, leur évaluation et l'évolution, et l'intervention d'un coupeur de feu va avoir une conséquence sur la cicatrisation, mais également sur la consommation de morphine, par exemple, qui est objectivable. Le problème, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas d'études qui soient méthodologiquement valables.
C'est pas publié.
Donc on sait que...
Donc on observe des choses.
On peut constater que ces patients vont mieux, consomment moins de produits antalgiques. Donc voilà. Mais, encore une fois, il manque une vraie évaluation qui soit scientifiquement valable, ce qui, on l'a dit déjà, est une vraie difficulté. Alors, c'est peut-être que ces méthodes d'évaluation ne sont pas adaptées et d'une façon générale, ne sont pas adaptées à des notions de bien-être et de vision globale du corps, et que le NCCAM, comme le disait Isabelle, réfléchit pour élaborer des méthodes d'évaluation adaptées à ces thérapeutiques.
Robert nous dit des infos, j'ai entendu ce sujet traité sur France Inter, c'était dans le téléphone sonne il y a 15 ans, et j'ai entendu un grand pont de la médecine mettre les rebouteux dans le sac des charlatans. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que les choses changent un peu, Isabelle Célestin, l'hôpital?
Moi, je crois qu'il y a toujours des discours passionnés et passionnels, et c'est naturel quand on a à cœur le soin d'un patient. Mais on voit qu'effectivement, c'est possible. C'est le sens de la discussion maintenant, mais aussi d'associations qui se créent, de discuter entre les différents intervenants qui peuvent être sollicités par des patients. Et moi, je crois au pouvoir vraiment de la discussion. Si on arrive à mieux cerner le fonctionnement des uns et des autres, et des deux côtés, je crois qu'il y a un pas à faire du côté des guérisseurs et un pas à faire du côté des médecins que ça intéresse, tout ça pour baliser le parcours de soins du patient, parce que c'est quand même parfois bien compliqué de savoir qui aller voir, comment avancer. Plus ce sera balisé, plus il y aura des discussions. Encore une fois, ça ne veut pas dire adhérer à la représentation quand on est médecin d'un guérisseur ou qu'un guérisseur adhère à la représentation, mais pour voir comment, puisque c'est un fait, c'est une réalité, comment on peut améliorer cette prise en charge ou en tout cas faciliter cette prise en charge pour un patient.
Gérard Osterman, on a un courriel de Jean-Paul, il nous dit ceci, la plupart des affections qui nous affligent tout au cours de notre existence ont tendance à se résoudre d'elles-mêmes. Ce phénomène de guérisseur donne prise à toute pratique rebouteuse ou autre qui prend appui justement sur ce phénomène de guérison spontanée pour se vendre comme efficace. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Alors c'est un argument qui tient la route parce qu'il y a souvent ce phénomène de régression lié à l'histoire naturelle de toute affection et que souvent on prend en compte, mais pas que du côté des guérisseurs, parfois aussi du côté de la médecine, et qu'on prend en compte une efficacité thérapeutique alors qu'elle est juste une histoire naturelle de guérison, si j'ose dire. Ça c'est tout à fait vrai. C'est pour ça que c'est difficile de démêler le vrai du faux là-dedans, qu'il faut des études, à mon avis, j'imagine que Isabelle Célestin, Isabelle Nègre sont d'accord avec moi, pour qu'on essaye de mieux appréhender les choses, qu'on étudie quand même l'efficacité. Je suis pour ma part convaincu que les neurosciences vont nous apporter énormément justement sur les mécanismes psychiques de la guérison et qu'on comprendra mieux les phénomènes. On les comprendra mieux, il restera toujours une part un peu de l'obscur, ça c'est évident.
Mais c'est le cas de la méditation par exemple, qui fait aujourd'hui véritablement partie des études scientifiques en neurosciences.
Complètement, c'est la méditation, l'hypnose médicale, qui est aussi une pratique des plus étudiées. Et il y a un renversement épistémologique, c'est-à-dire que les neurosciences étudient les effets avec toutes ces études en IRM fonctionnelles de la méditation et de l'hypnose. Mais finalement, on voit aussi que l'hypnose et la méditation permettent de mieux saisir et de mieux comprendre les phénomènes de la conscience et des phénomènes non conscients.
François nous dit ceci, je pratique la coupure du feu, la coupure de chimio et la radiothérapie, cela gratuitement. Bien sûr, je ne suis pas le seul en France. Combien faudra-t-il de témoignages de malades nous remerciant pour simplement pouvoir donner notre numéro de téléphone dans le service d'un hôpital. La coupure de chimio, qu'est-ce que c'est ?
La chimiothérapie peut induire des brûlures, souvent au niveau du tube digestif.
D'accord, ça ne veut pas dire arrêter la chimio, d'accord.
Ce sont les effets secondaires et c'est d'ailleurs souvent pour traiter les effets secondaires des traitements que les patients demandent à ces personnes d'intervenir. C'est-à-dire que les gens ne sont pas, enfin la plupart du temps, on parlera de ceux qui se laissent emporter dans de mauvais chemins, mais la plupart du temps, les gens sont raisonnables et c'est pour traiter les effets secondaires des médicaments ou bien compléter en tout cas les médicaments traditionnels.
Félix nous dit une précision, en principe le guérisseur entre partout sans aucune restriction à n'importe quelle heure, sous diverses formes, visibles ou invisibles. Il suffit qu'il y ait une demande consciente ou inconsciente du patient ou de la personne en charge du patient. C'est vrai ça ? Vous voulez pas répondre ? Qui veut répondre ?
Je pense que là, il y a une croyance un peu particulière.
Bon, Isabelle Célestin, hôpitaux. Non, mais sur le fait que vous puissiez vous rendre dans un hôpital, par exemple.
Mais c'est sur l'aspect visible-invisible où je
disais. Oui, on est d'accord.
Mais autrement, oui, bien sûr, je peux rentrer où je veux, oui, bien sûr.
Il n'y a pas de problème, si on vous le demande.
À partir du moment où on m'invite ou on me dit, où on me propose d'aller à un endroit, oui.
Isabelle Célestin, hôpitaux, les dérives aussi, elles existent ?
Dès qu'on parle de soins, c'est important de rappeler l'éthique du soin. Et ça, c'est valable pour tous, que la personne soit médecin, psychologue, guérisseur. Cette éthique, elle est importante. C'est l'autonomie du patient. Il ne s'agit pas, quelle que soit notre casquette professionnelle, d'amener quelqu'un à adhérer à un quelconque dogme, religion ou philosophie. Cette importance de la liberté de chacun est vraiment importante. L'autre point très important, c'est que lorsqu'on va voir un guérisseur, il me semble que c'est toujours précieux de voir que ce guérisseur a l'intention de travailler en lien, simplement en entendant ce qui peut se passer d'un point de vue médical, en complémentarité. Là où il faut fuir, c'est lorsque quelqu'un dit qu'il faut couper les liens avec le monde médical ou avec le monde familial. Là, on sait que c'est quelque chose qui ne va pas. Donc cette éthique, elle est rappelée de façon très intéressante sur le site de l'AMI Vilude, qui lutte contre les dérives sectaires. Encore une fois, quelle que soit la casquette professionnelle, quand on prend soin de quelqu'un, il y a des règles éthiques à avoir, il faut les rappeler. Autonomie et liberté.
Christophe Limerac, une question de Julien pour vous. Est-ce que vous pouvez vous vous auto-magnétiser, vous auto-guérir?
Tout dépend. Si c'est sur un choc, oui, je peux poser ma main sur moi et me soulager. Si c'est par rapport à une faiblesse au niveau de mon organisme, à partir du moment où la batterie est vide, comment la recharger par elle-même?
Libre penseur sur Twitter demande où peut-on se former pour devenir magnétiseur? Quelles sont les démarches à faire? C'est comme dans Harry Potter, est-ce qu'il y a des écoles?
Il y a des associations qui regroupent des guérisseurs qui éventuellement peuvent arriver à faire des formations. Et autrement, le mieux, c'est d'aller voir un guérisseur confirmé. Alors, n'y allez pas tous. D'aller voir un guérisseur confirmé et essayer de sympathiser quand il y a vraiment un lien que l'ancien considère qu'il peut passer un petit peu de son savoir, il le transmet avec plaisir.
Martine est magnétiseuse, elle a découvert cela il y a 4 ans. Je suis très déçu que nous ne puissions aider les malades en milieu hospitalier. Je coupe la douleur, je permets de calmer la personne malade. Pour nous tester, il suffirait de nous mettre en présence de pathologies déterminées et de voir nos capacités. Isabelle Nègre, est-ce que ce serait une solution selon vous ou pas?
Oui, bien sûr, mais je pense que j'aurais un peu, enfin, des difficultés en tout cas à convaincre le comité d'éthique qui est obligatoire pour tout traitement, puisque les conflits avec le Conseil de l'ordre et d'exercice illégal de la médecine sont vraiment ce que craignent les magnétiseurs, qui ont souvent donc des étiquettes de bioénergie, phytothérapie, etc. Donc avec des diplômes qui sont reconnus pour éviter justement ces attaques.
Merci en tout cas à tous les trois et à vous, Gérard Osterman en ligne depuis Bordeaux, Christophe Limerac. À Paris, on ne dit pas guérisseur, hein. On dit thérapeute énergétique, c'est ça, hein?
Tout à fait.
C'est beaucoup plus chic dans la capitale.
Et rebouteux, ça fait aussi peur aux gens, ils connaissent pas trop le rebouteux.
Merci beaucoup en tous les cas à tous les quatre.
Merci à vous.
Notre grand Manitou de l'histoire va arriver dans un instant. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour.
Quel sera le thème aujourd'hui, Fabrice, dans l'affaire sensible?
C'est un thème énergétique également. Ce sont les avions renifleurs aux confins des années 70 et 80. Et c'est Pierre Péan que nous recevrons, celui qui avait écrit les premiers articles sur l'affaire dans le Canard enchaîné. C'est lui qui a débusqué l'affaire.
Et ce sera juste après les infos, à tout à l'heure.